Et nous voici pour une nouvelle édition d'une chanson, une histoire avec Irit Azoulay. Bonjour Irit.
Bonjour Didier, quel plaisir de vous retrouver.
Ah bah, plaisir largement partagé. Et donc aujourd'hui c'est Yom Yerushalayim. Vous nous avez concocté dans une chanson, une histoire, vous nous avez trouvé une chanson spéciale dédicacée.
Mais non, dédiée. On peut aussi la dédicacer.
À Yom Yerushalayim. Et donc c'est aujourd'hui. Ce jour de fête, c'est le jour de la réunification de Jérusalem. Alors, vous allez nous raconter l'histoire de cette chanson qui s'intitule Hakotel, le mur, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et justement, vous ne vouliez pas traduire ce mot?
Ah ben voilà, c'est justement ce que je voulais dire pour commencer. J'ai décidé de maintenir le titre original, Hakotel, sans le traduire, parce que tout le monde sait qu'il fait référence au mur occidental, dit le mur des lamentations. Mais le mot kotel signifie mur, tout simplement, et c'est un synonyme du mot commun kir en hébreu. Et la seule différence, c'est que kir, c'est le mot biblique, en fait, même si on a l'impression que c'est juste le mot de tous les jours, alors que kotel est arrivé bien plus tard de l'araméen. Mais dans l'hébreu d'aujourd'hui, le mot kir est le mot le plus habituel qu'on utilise tout le temps, alors que kotel est considéré plus liturgique. Pourquoi ? Peut-être justement à cause du kotel hamaravi, ce fameux mur de lamentation.
Un peu de musique vaut mieux que toutes les paroles du monde.
Ben voilà,
on va s'écouter un peu le début de la chanson, qui représente aussi le refrain de cette chanson. C'est rare, une chanson qui commence par le refrain,
exact.
Finalement.
Et ça dépend des versions. En fait, il y a plusieurs versions, mais c'est celle que j'ai choisie.
Ah ben, c'est très bien, ben, votre choix sera le nôtre. Forcément, on n'a pas le choix non plus. Et puis, c'est une version signée Tsemed Darom, si je ne m'abuse.
Oui, c'est le duo du Sud, Tsemed Darom.
Eh ben voilà, on écoute à quoi ça ressemble. Refrain et une musique qui n'aurait pas déplu à un certain Yoram Gaon. J'avais l'impression que j'allais entendre.
Yoram Gaon a aussi chanté cette chanson, figurez-vous. Sauf que lui, il commence par les strophes elles-mêmes qui sont beaucoup plus longues et il le fait d'une manière beaucoup plus ralentie. J'ai trouvé que cette version-là de Tsemed Darom était un peu plus vive. Mais c'est une chanson ralentie, bien sûr, parce que triste. Mais voilà, l'histoire, je voulais d'abord...
Justement, pardonnez-moi, mais on sort un petit peu du
cadre. Oui, je vous en prie.
Mais très souvent, les chansons sur Jérusalem, elles ont ce côté un peu triste.
En effet.
Et en définitive, on parle de la réunification de Jérusalem.
Oui.
C'est Yom Yerushalayim, ça devrait être festif.
Et en effet, mais c'est toujours la même chose chez nous, dans le peuple juif.
Oui, c'est vrai.
Tout ce qui est festif, mais non, c'est parce que tout ce qui est festif, pour arriver, en fait, pour atteindre ce moment festif, on a dû se battre, on a dû avoir
bien
des
évidemment.
Gens, on a dû perdre, bien sûr, beaucoup de soldats et des vies et souffrir. Donc, il y a toujours ce mélange de la souffrance.
En fait.
C'est pas de la nostalgie, je dirais que c'est de la souffrance, parce que les morts, les horreurs qu'on a dû vivre avant d'atteindre un moment festif.
C'est le principe de toutes les guerres et de toutes les victoires.
Ben voilà, donc c'est mélangé, on ne peut pas juste se réjouir.
Pardonnez-moi pour cette petite digression, mais
c'est très intéressant, absolument, et c'est juste le problème que Lise va dire que c'est encore trop long.
Pas grave, tant que c'est intéressant.
Voilà. Mais voilà, pour commencer, j'aurais voulu d'abord raconter l'histoire ce fameux mur occidental à Kotel et dire que ce mur commence par une modeste montagne qui s'appelle le mont Moria, appelé aussi le mont du Temple. Tout au long de l'histoire, des événements fondateurs du peuple juif se sont déroulés sur cette montagne. Dieu va conduire Abraham vers le mont Moria pour qu'il lui offre en sacrifice son fils Isaac, qui finalement ne se fait pas. Et c'est aussi sur cette montagne que Jacob aurait rêvé de l'échelle sur laquelle les anges descendent et montent au ciel. Puis Salomon, le fils du roi David, va ériger le temple de Dieu sur cette petite montagne. Mais surtout, c'est au sommet du mont Moria que se trouve une très ancienne pierre appelée Even Hashtiya, qu'on surnomme le rocher de la fondation. Et selon une croyance, le monde entier aurait été créé à partir de ce rocher. L'environnement étant vieux de quelques 90 millions d'années, le rocher de la fondation est considéré comme le point de jonction spirituelle entre les cieux et la terre.
Ah ben dites-moi.
Eh oui.
Si je m'étais douté.
Et selon la tradition, figurez-vous, cette pierre serait l'ouverture vers l'abîme. Et lors du fameux Maboul, le déluge de Noach, Dieu aurait déplacé ce rocher afin d'ouvrir les sources du gouffre et d'inonder le monde. Ces traditions sont passées du judaïsme vers l'islam, selon lequel le premier homme, Adam, serait enterré sous ce rocher. Et à l'époque du temple de Jérusalem, où est-ce que se trouvait ce fameux rocher ? Ce rocher de la fondation a formé l'assise du Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, du temple, le lieu où seuls les prêtres, les Kohanim, pouvaient entrer. Et comme d'habitude, on va faire des raccourcis audacieux sur le plan historique et on saute vers les Grecs et les Romains qui finiront par détruire le temple de Salomon. Et voilà qu'au 7e siècle, le calife Abd al-Malik va ériger une mosquée sur les vestiges du Beit Mikdash, de ce fameux temple juif. Le calife va s'emparer du site le plus saint pour les juifs pour le transformer à celui des musulmans. Il choisira alors de placer, c'est pas par hasard, le fameux rocher de la fondation, qui était le Kodesh HaKodashim du temple. Il va le placer au centre de la mosquée qu'on connaît aujourd'hui, comme étant le dôme du rocher, Kippat HaSela. Et voici un autre gros saut dans l'histoire, en 1948. On arrive à 1948. Après la déclaration de l'indépendance d'Israël, la mosquée dôme du rocher, ainsi que le mont du Temple et Jérusalem-Est, passent sous le contrôle de la Jordanie.
Eh oui, et tant qu'à faire des bons en avant, on va garder nos bottes de sept lieues, et on va se retrouver maintenant en 1967. Il paraît que pendant la guerre des six jours, la légion jordanienne installe une position de tireur d'élite dans le minaret de cette mosquée dôme du rocher, d'où elle tire sur les soldats de Tsahal.
Absolument. C'était le 5 juin 1967, jour qu'on fête aujourd'hui. Israël lance une attaque contre l'Égypte face à la mobilisation des armées arabes et au blocus du canal de Suez. Israël demande alors à la Jordanie de rester neutre, mais celle-ci attaque Israël dès le premier jour. L'ONU s'en mêle et conclut un accord de cessez-le-feu, mais la Jordanie va violer cet accord aussitôt. C'est alors qu'Israël va lancer une contre-attaque et conquiert la Cisjordanie ainsi que Jérusalem-Est et la vieille ville de Jérusalem. Les parachutistes israéliens débarquent au Kotel et les larmes aux yeux de voir ce Kotel qui est un lieu saint, ils vont se mettre à chanter Yerushalayim Shel Zahav.
Ah ben, tous les fidèles qui nous écoutent depuis un peu plus d'un an maintenant doivent s'en souvenir, c'était tout pile il y a un an. Mm-hmm. On a enregistré dans ce même studio votre chronique Yom Yerushalayim sur cette chanson Yerushalayim Shel Zahav. Et on va certainement la rediffuser ces jours-ci. J'imagine. Je fais confiance à notre ami Clément.
Merci Didier, merci Clément.
Une petite commande spéciale dédiée. On va dire.
Voilà, parce que peut-être les gens auraient voulu que je fasse Yerushalayim Shel Zahav, c'est la plus connue. J'ai choisi à Kotel cette fois-ci parce que Yerushalayim Shel Zahav avait déjà été faite, elle qui était écrite par Naomi Shemer peu de temps avant la guerre de six jours. Mais après, elle aura ajouté les strophes qui concernent la guerre. Sauf que Yossi Gamzou, c'est celui qui a écrit à Kotel, lui, il va l'écrire juste après. En fait, plutôt au moment où, carrément le deux jours après qu'on ait conquis la vieille cité. Et c'était un professeur. Le professeur Yossi Gamzou était un poète et enseignait la littérature hébraïque dans les universités australiennes et américaines. Il écrit beaucoup de chansons qui sont devenues très célèbres, dont Hakotel. Et quand il a été interviewé sur cette chanson, il va raconter ceci. Lorsque la guerre des six jours éclate, le 5 juin 1967, je n'ai pas été mobilisée car j'avais effectué mon service militaire en tant que journaliste. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés chez moi, alors j'ai rejoint un groupe d'artistes qui voyageaient entre les unités de Tsahal. Le 7 juin, après la libération du mont du Temple, nous sommes arrivés au Kotel. Là, j'ai vu des centaines de parachutistes, assis par terre, dans un silence glaçant. La place était pavée de sacs à dos militaires et de mitraillettes Uzi. L'armée victorieuse ressemblait à une armée vaincue. Ce n'est pas une armée victorieuse qui se vante ou qui méprise son ennemi. C'est une armée victorieuse qui pleure ses camarades tombés au combat. Le contraste entre leur victoire et le terrible chagrin m'a coupé le souffle. Cette nuit-là, ne trouvant pas le sommeil, j'ai écrit à Kotel.
Et donc ça, c'était les paroles de Yossi Gamzou, le professeur et le poète qui a écrit cette chanson.
Exact. Et ça répond à votre question première.
Absolument.
Hein. Et donc, on va citer d'abord le refrain. « Hakotel eizov va'atsevet, hakotel oferet vadam ». C'est-à-dire, le kotel, c'est l'hysope et le chagrin. Le kotel, c'est le plomb et le sang. Avez-vous déjà entendu parler de l'hysope, Didier ?
Absolument pas. Mais alors, absolument pas. J'ai toujours entendu « allez hop ».
Ah non, ça c'est l'hysope. En fait, c'est l'apostrophe. C'est une plante.
H-Y-S-O-P-E.
Voilà, H-Y-S-O-P-E. Voilà, c'est une plante. En fait, c'est le nom biblique de la fameuse plante qui pousse dans les creux des murs. Vous voyez les creux des murs de Kotel ? On voit des plantes qui poussent là-dedans. Et ça s'appelle en hébreu « eizov ». Et d'ailleurs, l'hysope est venu de l'hébreu « eizov ». Et c'est une plante médicinale et alimentaire de laquelle on fabrique notamment le fameux zaatar qu'on mange avec le houmous. Vous voyez
Entre autres.
Et dans la famille de l'hysope, nous trouverons la sauge, l'origan, le thym, le romarin et la marjolaine.
Ah, tout ça, c'est des hysopes.
Oui, c'est plus ou moins la même chose.
Ouais,
c'est de la même famille. Et la marjolaine, en fait, aurait tiré son nom aussi du nom hébreu Moria. Moria, marjolaine. Ceci nous ramène à cette fameuse montagne, le mont Moria. Parce que le Moria est aussi un type de plante, appelé aujourd'hui marva en hébreu, qui est très répandu dans la région et dont la forme, dans certains cas, si vous regardez sur Internet, ressemble à un chandelier.
Donc, la marva, M-A-R-V-A.
Moria, marva, plutôt hysope, cherchez hysope, H-Y-S-O-P-E, enfin.
Pourquoi pas ?
Et mis à part cette plante, Moria, et le nom Moria, est composé de Mori, à Moresheli, mon maître, Ya, donc Dieu, c'est-à-dire Dieu est mon maître, ou bien Dieu est mon guide, qui m'aurait chez Marelieta Derer. Puis arrive la phrase qui est devenue très célèbre et qui a suscité beaucoup d'analyses philosophiques. Il dit « Yesh anashim im lev shel even, yesh avanim im lev adam ». C'est trop beau ça. Il y a des gens qui ont un cœur de pierre et il y a des pierres qui ont un cœur humain. D'où vient cette idée de cœur de pierre ? C'est mentionné une seule fois par le prophète Ézéchiel, qui dit « Vehasiroti lev ha'even mibsaram, venatati lahem lev basar ». Ce qui veut dire « Je vais ôter leur cœur de pierre de leur corps et je leur donnerai à la place un cœur en chair ». Mais on peut philosopher longtemps sur cette phrase, je n'ai pas beaucoup de temps, mais on peut quand même se poser la question « Qui sont ces gens qui ont un cœur de pierre ?» Ce seraient peut-être ceux qui méprisent les pierres qui ont un cœur humain. Et les pierres et les rochers sont vénérés, comme vous le savez, par l'homme depuis la nuit des temps. Notamment à cause de leur forme et leur caractère éternel. Les anciens voyaient dans la pierre une présence divine. Ils les adoraient et leur faisaient des offrandes. Le culte des pierres était surtout présent parmi les peuples sémites. Et lorsque les Israélites arrivent en Canaan, ils y trouvent des amas de pierres, appelés des cairns, C-A-I-R-N, qu'ils vont adopter. Les preuves de leur existence émergent non seulement des récits bibliques, mais aussi des fouilles archéologiques.
En parlant de fouilles archéologiques, justement, les souterrains sous le mur occidental, le mur d'alimentation, je le rappelle, ils se sont ouverts au public dans les années 80. Il paraît même que les visiteurs sont abasourdis de l'énorme pierre qui se dresse à l'entrée du tunnel, qui s'étend d'ailleurs tout le long du mur.
Mais oui, il y a de quoi être émerveillé. Il s'agit, figurez-vous, de la plus grande pierre de construction au monde, qui pèse plus ou moins 600 tonnes. Vous allez me dire, oui, mais moi je croyais que c'était les pyramides. Eh bien, c'est ce qu'on croyait jusqu'aux années 70, plus ou moins, quand on a découvert cette pierre-là. Et en fait, depuis les fouilles archéologiques au mont du Temple, un grand mystère est né. Comment est-ce que cette gigantesque pierre a-t-elle été placée et est-elle arrivée à cet endroit ? Donc la construction date d'une époque où il n'existait pas de grue, comme on le sait. Il est impossible qu'une telle pierre ait pu être soulevée.
Un peu comme les pyramides. Hein.
Ah ben oui, sauf que là, on est quand même sur une petite montagne et elle est beaucoup plus grosse que les pyramides, 600 tonnes. On suppose que la pierre était taillée dans la roche, en haut de la montagne, et qu'ensuite, elle aurait été roulée vers le bas sur des arbres arrondis qui faisaient peut-être office de patins. Mais on ne sait quand même pas quel matériau aurait pu supporter cette lourde charge sans être complètement écrasé. Et jusqu'à ce jour, figurez-vous, ça reste un mystère, Didier.
C'est vrai que ça peut procurer une sensation extraordinaire. Et en même temps, je peux en témoigner, je n'ai pas été souvent en Israël, mais j'ai eu l'occasion de toucher ce mur. Et c'est vrai que je peux comprendre l'émotion ressentie par les Israéliens lorsqu'ils ont reconquis le monde du Temple en définition.
Oui, mais oui, vous avez tellement raison, Didier. Cela fait des siècles que les Juifs, mais pas seulement, les ressentent des vibrations particulières et indescriptibles émanant de ces pierres qui ont une âme, une neshama. Après avoir récupéré la vieille ville en 1967, l'émotion en Israël était très, très vive. Yossi Gamzu, qui a écrit cette chanson, était tellement bouleversé qu'il décrit dans ce poème quelques scènes très touchantes. Je n'ai pas le temps de vous traduire tout, mais quand même, il y a 4 strophes à cette chanson et je vais vous faire un petit résumé de chaque strophe. Donc la première parle d'une jeune fille et elle dit « Une jeune fille devant le kotel me dit « La sonnerie du chauffard est stridente, mais le silence l'est encore plus. » Et puis arrive le parachutiste, qui se tenait devant le mur. Et de tout son peloton, il ne restait que lui. Il me dit « La mort n'a pas de figure, mais elle a un diamètre, exactement 9 mm. » C'est beau ça, et triste à la fois. Vous voyez, c'est, on est pris comme ça. Et puis, la troisième strophe, ça sera une mère, une maman. Tout en noir, devant le kotel, la mère d'un jeune homme de l'infanterie me dit « Ce sont les yeux de mon fils qui brillent sur le mur et non les bougies. » Voilà, je vais passer à la quatrième strophe qui était un vieux rabbin. Un vieux rabbin face au kotel prie avec une larme qui scintille. Tout seul, parmi des dizaines de soldats, il me dit « En fait, en dessous du kaki, vous êtes tous des prêtres, Kohen ou Lévi. » Et là, c'est très beau parce que c'est une manière de dire, en fait, que les rabbins qui croyaient que les laïcs et les soldats, et ceux qui n'étaient pas religieux, ne valaient entre guillemets rien ou n'étaient pas. Il dit, mais tout compte fait, vous êtes en dessous du kaki, en dessous de l'uniforme, vous êtes tous des prêtres, Kohen ou Lévi.
Ouais, c'est une façon de le voir, c'est bien, on apprend tous les gens.
C'est une façon.
Et pour conclure notre chronique d'aujourd'hui, journée de Yom Yerushalayim, je le rappelle, vous vouliez justement conclure l'histoire de cette chanson avec une citation de son auteur, à savoir Yossi Gamzu.
Oui, voilà, je suis tombée en faisant des recherches sur une question magnifique qu'un journaliste un jour lui a posée. On lui a demandé « Est-ce que vous vous sentez plus juif ou plus israélien ?» Et voici ce que Gamzu a répondu. Il a dit « Je suis d'abord juif et c'est la raison pour laquelle je suis devenu israélien. J'ai vécu dans des pays bien plus beaux, bien plus grands et plus calmes qu'Israël. » Ça, c'est pas difficile, vous allez me dire. Mais, ouais. j'ai fini par rentrer ici, chez moi. Car on a beau me montrer des femmes plus belles ou plus intelligentes que ma mère, mais elle et elle seule restera ma maman.
Ah bah oui.
Hein que c'est beau.
Absolument. On se quitte avec la chanson à côté.
Oui, c'est une belle chanson. Merci Didier.
Merci Ritz, c'est un vrai bonheur de vous avoir.
À
très vite.
À la prochaine.
Et puis bonne fête à Yom
Yerushalayim.
לתקיעות השופר חזקות הן אבל השתיקה עוד יותר אמרה לי ציון הר הבית שתקה לי הגמול והזכות ומה שזהר על מצחה בין ארבעים היה הגמד של מלכות. הכותל איזור בעצמת, הכותל עופרת בדם, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. עמד הצנחן מול הכותל, מכל מחלקתו רק אחד אמר לי למוות אין דמות, אך יש קוטר 9 מילימטר בלבד. אמר לי אינני דומע, ושב להשפיל מבטים, אך סבא שלי אלוהים היודע קבור כאן בהר הזיתים. הכותל איזור בעצמת, הכותל עופרת בדם, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. אמרה לי עיני נערי, הדולקות הן ולא הנרות שבקיר. אמרה לי אינני רושמת שום פתק לתמון בין סדקיו, כי מה שנתתי לכותל רק אמש גדול ממילים ומכתב. הכותל איזור בעצבת, הכותל עופרת בדם, יש אנשים עם לב